Déjà 30 ans, les amis. Ça fait déjà 30 ans qu'on a créé les CPE, c'est-à-dire ces services de garde en milieu éducatif. Ça a été créé à l'époque par le Parti québécois. C'est toujours le fun après un nombre d'années comme ça, exact, que ce soit 20, 25, 30, de faire un petit bilan sur « Ça fonctionne-tu cette affaire-là ou ça fonctionne pas? » Et pour en parler avec nous, on a Étienne-Alexandre Beauregard, qui est chercheur à l'Institut Cardius. Étienne-Alexandre, comment vas-tu?
Ça va très bien, vous-même.
Oui, ça va bien. Attends, j'ai pas allumé le bon micro, moi, là.
Bon, il a dit voilà. Ça va très bien, vous-même.
Yes!
Je crois ça, c'est
et poli. Voilà!
Hey, salut!
Ouais.
Salut!
Étienne-Alexandre, bon, je vais te rajeunir. T'étais même pas au monde quand on a créé ça, les CPE.
Mais je suis allé dans un CPE, tu sauras, Jeff.
Oui! Un enfant du CPE.
Mais j'ai fréquenté, oui, exactement. Fait que c'est toujours le fun de pouvoir en parler avec cette perspective-là de quelqu'un qui l'a connu. Mais oui, fait que c'était un peu l'étude de regarder, en fait, parce qu'on sait, là, la campagne électorale s'en vient. Puis mettons que j'étais gageux, je mettrais un petit 2 qu'il y a quelques partis, pour ne pas dire tous, qui vont nous promettre plus de place en garderie.
Ben écoute, ça a commencé hier, on avait Chloé Fauchon, la députée la candidate pour le PQ dans Louis-Hébert, qui a dit... En capitale nationale, il y a 4000 enfants qui sont en attente d'une place. Mm-hmm. On va débloquer des places en CPE. À la grandeur de la province, c'est à peu près 30 000.
Oui, exactement, la liste d'attente de 30 000.
D'accord, faut-tu faire ça? Faut-tu élargir notre réseau de CPE, en créer encore plus pour aider la population?
Bien, c'est-à-dire qu'on peut toujours essayer, puis c'est pas mal ça qu'on fait depuis 30 ans, parce qu'il y a des places qui sont créées à peu près à chaque année.
Ben, t'as raison.
C'est pas comme si le gouvernement se tournait les pouces. Mais il y a un problème persistant qui reste, par exemple, c'est que la demande est toujours plus élevée que l'offre. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, moi, je pense que ça vaut la peine au moins de regarder la mécanique du système en ce moment, comment il fonctionne, puis comment ça nous explique aussi ces difficultés d'accès-là. Parce que quand tu regardes dans le monde, dans les différents États, il y a deux grosses méthodes pour financer un système de services de garde. Soit tu vas donner de l'argent aux institutions directement, là, à la garderie, quand un enfant la fréquente puis qu'il y a une place. C'est ce qu'on fait au Québec.
C'est ce qu'on fait présentement.
Ou tu peux donner de l'argent aux parents, donner un montant XY, dire... Ensuite, trouvez la garderie qui vous plaît, trouvez le système, le moyen de garde qui vous plaît, puis on vous laisse la liberté là-dessus.
Parfait.
Et donc, nous, en fait, les problèmes qu'on voit en ce moment, c'est pour ça que l'étude que j'ai publiée hier s'appelle « Ni universel, ni équitable ». On voit que le réseau qui prétend être universel, dans le sens maintenant, dans la loi, ça dit « Bon, chaque enfant a droit à un service de garde adapté de qualité », mais est-ce que dans les faits, ce droit-là, il est exécutoire? Ben non, on parlait de la liste d'attente, puis de fait, c'est pas tout le monde qui a le service de garde qu'il désire.
Exactement.
Et sur la partie équitable, ça aussi, c'est intéressant, parce que vu que la subvention, elle est versée directement au service de garde, nous, on voit rarement qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, hein, combien chacun reçoit. Mais si vous êtes parent en ce moment, puis que votre enfant, il fréquente une garderie subventionnée ou un CPE, la subvention réelle qu'il reçoit, c'est entre 60 et 70 $ par jour. Ça, c'est en plus...
Par enfant?
Ouais. Ça, c'est en plus du 9,65 que vous payez. Mais évidemment, 9,65, ça ne rend pas un service de garde rentable. C'est pour ça qu'il y a une subvention en arrière. Cela dit, si vous ne voulez pas ou que vous n'avez pas de place en garderie subventionnée, que vous avez, par exemple, une place dans un milieu familial ou que vous avez une place dans une garderie non subventionnée et que vous récoltez le crédit d'impôt pour cette raison-là, la subvention, elle ressemble plus à 35 $ par jour. Mais ça, les chances sont que vous ne le savez pas.
Fait que ça veut dire que moi, mon enfant vaut 60 à 70 $ par jour dans un CPE, mais 35$ à l'extérieur d'un CPE, mais c'est le même enfant?
Oui. Puis si, par exemple, c'est ta mère qui le garde chez vous 3 jours par semaine, bien, il vaut zéro.
Il vaut zéro. Puis là, c'est le même
enfant.
Et là, moi, t'as accroché, là, justement, t'as accroché mon cerveau sur quand t'as parlé d'équitable. Le monde le savent, moi, je viens du milieu communautaire. Fait que quand tu parles d'équitable, moi, je me disais, attends une minute, là, ce CPE-là, puis là, je veux pas commencer à faire du Québec solidaire aujourd'hui, mais l'enfant vaut 70$ autant pour la personne qui gagne 200 000 par année que pour la personne qui travaille au salaire minimum.
Ah, ça, c'est l'autre affaire aussi. Parce que effectivement, vu que le prix, c'est un tarif unique, ça, les libéraux, ils avaient essayé en 2014-2018.
Oui. Et Colin s'était fait clencher.
Ah, ben oui, il y avait eu tout un procès là-dessus. On se rappelle la taxe famille, etc.
Ils ont été obligés d'en venir en arrière.
Mais c'était modulé selon le revenu, puis ça finançait une partie du réseau, quoi qu'on en dise. Puis surtout, ce qu'on regarde en ce moment, je ne sais pas si tu as vu cette partie-là de l'étude, mais quand on regarde, c'est les enfants qui sont en garderie, selon le type de garderie, c'est quoi le revenu des parents? Bien, les parents à revenus élevés sont surreprésentés en CPE, par rapport aux
autres.
Ça m'a
frappé. Ça m'a frappé dans l'étude. Ben non, c'est pas anodin. Parce que ça veut dire que les CPE desservent davantage une population mieux nantie, alors que ça a été fait, puis là tu me corriges si je me trompe, sur le principe que ça soit universel, peu importe l'argent que tu as dans tes poches.
Mais c'était vraiment pour avoir une mixité, en fait, ben là, oui, de différentes strates sociales, en fait, mm-hmm, pour les enfants, là, pour les développer à leur plein potentiel aussi.
Oui, puis plus encore, en fait, les études vraiment comme académiques sur l'effet là, des garderies à vocation éducative sur les enfants, là où ils vont trouver les impacts les plus forts et les meilleurs pour préparer les enfants à l'école, c'est souvent ceux qui vont venir de milieux défavorisés. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a, mm-hmm, certaines clauses préférentielles, mm-hmm, pour essayer de monter la proportion qui sont là-dedans. Mais clairement, quand on regarde le portrait démographique aujourd'hui, ça correspond moyennement à ça. Puis comme tu dis, oui, il y a aussi l'enjeu d'équité au niveau financier. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette étude-là, c'est de dire, OK, mais tous ceux qui n'ont pas de place ou qui s'arrangent avec des moyens de garde plus informels, où est-ce qu'ils trouvent leur compte là-dedans?
Mais je me questionne aussi sur le fait d'une famille moins bien nantie, là, puis qui doit payer un certain tarif pour envoyer son enfant au CPE. Il n'y a pas peut-être la décision de se dire il y a un parent qui va rester à la maison rendu là parce qu'au niveau ratio économique, c'est beaucoup plus avantageux?
Ça, c'est une question intéressante aussi parce que ça, c'est quelque fait chose que j'aime dire. C'est un peu tabou quand on va là.
Ben oui, mais moi, ça me dérange pas.
Non,
je
pense on est là pour ça. Hein.
Oui, mais je pense que tout doit être abordé.
Oui, mais t'as raison. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, on parle beaucoup de conciliation travail-famille, etc. Moi, j'aime souvent poser la question, est-ce que les garderies subventionnées comme ça, c'est une politique pro-travail ou pro-famille? Tu sais, est-ce que ça t'encourage, mm-hmm, à passer du temps en famille ou ça t'encourage à passer du temps au travail? Puis évidemment, c'est une subvention au travail. Si c'est ben un montant que tu paierais pour pouvoir faire autre chose tes jours de semaine que le gouvernement va payer à ta place, de fait, c'est ça.
Mm-hmm.
Ben d'abord, c'est une politique qui incite au travail. Mais si on veut un équilibre travail-famille, est-ce qu'il n'y a que ça qui compte dans l'équation? Puis c'est pour ça qu'à la fin, je regarde le modèle de la Finlande, qui, moi, m'intéresse, parce qu'on discutait des deux grandes approches. Il y a le côté, est-ce que tu finances l'établissement, est-ce que tu finances le parent? Mais eux, ils ont comme un modèle mixte.
Vas-y, parle-nous de ça.
Ben, comme au Québec, il y a des garderies publiques qui sont financées. Ça, c'est une chose.
Okay.
Mais si, par exemple, tu ne veux pas ou ne peux pas envoyer ton enfant en garderie, tu peux demander juste une prestation, comme une espèce de opting out du service public. Tu te gardes, moi, je vais prendre de l'argent, 700 euros, je pense, fait environ 1000 piastres par mois. Puis tu gardes comme tu veux, tu peux demander à grand moment, tu peux t'en occuper toi-même une couple de jours par semaine, tu arranges ça comme tu veux. Et là où c'est encore plus intéressant, je trouve, c'est qu'ils ont aussi ce qu'ils appellent l'allocation de garde flexible. C'est-à-dire si ton enfant a une place en garderie, mais tu dis, mettons, moi, une ou deux journées par semaine, j'aimerais ça l'avoir chez nous.
Chose qui est proscrite ici parce que tu vas perdre ta place.
Exactement.
Il faut absolument que ton enfant y aille et où tu payes.
Voilà. Tandis que là, on a un système qui est bâti avec la flexibilité dedans puis qui te permet, mettons, que quand ton enfant, justement, il y a 2-3 ans avant qu'il rentre à l'école et tout, que tu aimerais ça prendre des semaines de travail un petit peu moins grosses, il y a cette possibilité-là, c'est pensé dans le système. Moi, je trouve ça pas pire.
Est-ce qu'on a l'impression d'avoir les reins financiers assez solides au Québec pour s'offrir un genre d'amalgame, comme tu viens de décrire, que la Finlande a décidé de mettre en place?
Bien, en fait, ça va vraiment dépendre au niveau du coût. Parce que si on regarde au montant qui est investi par enfant, tout va dépendre des transferts qui arriveraient. C'est sûr que si tu dis, là, tu as 20 % des enfants de 1 à 4 ans qui n'ont pas de place. Fait que oui, effectivement, que le gouvernement sauve de l'argent du fait que ces gens-là ne veulent pas ou n'ont carrément pas de place parce qu'ils sont sur la liste d'attente. Est-ce que c'est comme ça qu'on voudrait sauver de l'argent au Québec en n'étant pas capable de donner des services aux gens? Je suis pas sûr. Mais si, par exemple, ta place à 70 $ ton 70 $ de CPE, tu dis, mettons, moi, une journée, deux journées par semaine, je prends le chèque, puis on dit le chèque, c'est 40 par jour. Bien là, de fait, tu sauves un peu. Fait que tu peux avoir des transferts d'une catégorie vers l'autre. Puis au moins, l'avantage, c'est qu'on arrêterait d'avoir un système qui est pas universel, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas desservis, qui n'ont pas de place, qui en veulent
pas. En effet, 30 000 personnes au Québec, on le rappelle.
Exactement. Puis on irait au moins vers quelque chose d'un peu plus équitable, dans le sens où toutes les options que tu choisis auraient un minimum de soutien.
Vraiment, il y a une maman justement qui nous écrit, Laurie, elle dit « Hey, si mon enfant a 70 $ par jour, une maman qui reste à la maison pour garder et élever ses propres enfants, elle ne reçoit pas ce montant-là. » Puis j'ai fait le calcul, 70 $ par jour, si on fait 5 jours par semaine sur 52 semaines, c'est 18 200 $. Donc, ça fait en sorte que c'est ce que un parent pourrait toucher, une famille pourrait toucher, et là, déciderait ce qu'elle fait avec ce montant-là de 18 200 $. Donc, elle pourrait dire, ben moi, j'en dépense 9 000 dans une garderie, puis j'en garde 9 000 parce que je vais travailler juste 3 jours semaine, par exemple. J'ai bien compris ce que tu expliques?
Ben exactement. C'est tout à fait ça, c'est de dire, OK, pourquoi on donne pas plus de choix aux parents? Mm-hmm. Parce que moi, je suis convaincu, quand on regarde les sondages, là, le gouvernement du Québec, ils en font des sondages, il y a des organismes, le Réseau Québec Famille aussi, qui demandent aux parents, pour la conciliation travail-famille, c'est quoi que vous voulez? Puis la première chose qui arrive, c'est toujours « j'aimerais un horaire plus flexible, j'aimerais plus de congés pour prendre soin de mes enfants ».
Ben oui, on en parlait justement ce matin avec Alain Gosselin, spécialiste en ressources humaines, qui écrit des chroniques dans la presse. Et justement, depuis la pandémie, la première demande des employés à l'employeur, c'est de la flexibilité dans les horaires. Je suis certain que si on faisait un sondage auprès des jeunes mères, ils diraient « abolissez-moi le 5 jours de travail, m'en travailler 4, m'en rester 3 jours ». Non, mais c'est vrai, puis il y a plein d'enseignantes qui font ça. Je le sais, la mère des enfants est enseignante qui se prennent la journée du mercredi, se prennent une tâche à 80%, prennent la journée du mercredi en congé parce que bon, ben là, je peux faire le ménage, l'épicerie, tout le kit parce que la fin de semaine, avec les trois enfants, les arénas, les loisirs, les ci, les ça, j'arrive pas.
Oui, ouais, exactement. Puis je pense que c'est un défi de notre époque, en tout cas, auquel on ne devrait pas être insensible. Parce que si on parle tout le temps de qualité de vie, on parle de vie de famille, etc., bien, le temps qu'on passe, le temps de qualité, bien, ça a une valeur. Puis en tout cas, j'espère que c'est le genre de réflexion qu'on va pouvoir avoir au niveau politique aussi pour dire, pas juste, oui, on va toujours créer plus de places subventionnées, etc. Puis au final, on voit encore une fois que l'offre rattrape jamais la demande. Est-ce qu'on peut aussi donner cette flexibilité-là dans la gestion du programme?
Vraiment. Beau témoignage de Suzy qui disait, en 2004, j'ai eu des jumeaux et comme les garderies supervisées étaient très rares, j'ai dû mettre ma carrière sur pause pour 5 ans car je n'avais pas le choix. Une garderie non subventionnée à ce moment-là était 50$ par enfant, fait que 100$ par jour. Fait que tu vois, avec la mixité que t'expliques, ben, Suzy aurait pu travailler 2, 3, 4 jours par semaine, ne pas mettre sa carrière sur pause et avoir cette flexibilité-là, justement.
Il y a des gens qui ont des opinions qui viennent un peu de l'autre côté aussi. Alors là, vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait payer pour les enfants des autres et payer pour qu'ils restent chez eux avec leurs enfants?
Oui, payer pour les enfants des autres, c'est tout le temps drôle. Tu sais, il y en a un qui m'a répondu ça hier sur Twitter. Je n'ai pas d'enfants, je ne paierai pas pour ceux des autres avec un emoji finger.
Okay. C'était très.
oui, c'est ça. Non, non, pas le même niveau que notre auditeur ici. Non. Mais moi, j'avais juste le goût d'y répondre. Je n'ai pas répondu. Je ne perds pas mon temps que ça. Mais qui va payer vos retraites? Qui va payer vos soins de santé? Qui va payer vos CHSLD, les amis? Fait que oui, j'espère. Tu sais, je veux dire, on est dans un système où tout le monde dépend de tout le monde. Parce que quand on mutualise tellement de services sociaux comme ça, on n'a pas le choix de penser à ça. Puis tu sais, ça, c'est. Vous savez, moi, je parle beaucoup de ça, les questions de famille, ça m'intéresse. Puis. On a tous un intérêt à vivre dans une société qui est jeune. Même si nous, ce n'est pas notre choix personnel, tu ne veux pas vivre dans une société où il y a plus de gens qui sont en haut de 65 ans que de gens qui cotisent. Fait qu'on a tous un intérêt à vivre dans une société comme ça, notamment aussi pour le dynamisme. Qui c'est qui crée des entreprises, qui fait des innovations? Ça va être quand on est plus jeune, normal.
C'est clair.
Toutes sortes de choses comme ça. Fait que oui, on paye pour ceux des autres, entre guillemets, mais je veux dire, le concept de l'État-providence rendu là, c'est qu'on paye pour les autres. Fait que
ça, hey, un petit dernier mot, Étienne-Alexandre, char du service de garde, et merci, étude super intéressante qui me fait beaucoup réfléchir. Comment tu trouves la pré-campagne électorale à l'heure actuelle?
Ben écoute, pour l'instant, je pense que c'est assez calme puis imprévisible.
Ouais.
On voit une espèce de triple égalité. Puis en tout cas, moi, le truc qui me frappe le plus, c'est que les libéraux ont réussi à comme se couper les jambes puis pratiquement scraper leur campagne
eux
avant même,
même
qu'elle soit commencée. Ben oui. Puis en plus, c'est tout le temps sa même affaire. C'est tout le temps sa langue française.
Tout le temps.
À chaque fois qu'ils arrivent avec quelque chose, t'en as 2-3 dans le caucus qui commencent à grenouiller. Puis là, non, il faut pas.
L'enfer.
Là, ils ont l'air ridicules devant tout le monde. Mais moi, je pense que la pire affaire, c'est les deux candidats qui choquent. Ça,
oui.
C'est terrible. T'sais, tu vas chercher 2 candidats, un maire, M. Verret, comme procureur de la Couronne, etc. Puis là, finalement, 2 semaines après, les deux, ouais, je ne sais pas si ça me tente. T'sais, le momentum est mauvais.
Ah,
en même temps que tu baisses dans les sondages, c'est comme.
Le monde sort.
Il doit en arracher de ce temps-là.
Exactement. Fait que ça va être intéressant à suivre. Évidemment, on va suivre ça avec toi là, au courant de l'automne, sans problème, à l'émission On en jase. Merci pour cette chronique super pertinente. Dans les 30 ans de la formation des CPE, est-ce que c'est le temps de revoir le modèle? Qu'est-ce que vous en pensez? 418-971-1021. Moi, je suis convaincu que c'est le temps de revoir ce modèle-là quand il y a 30 000 personnes qui sont en attente. C'est que le modèle fonctionne pas.
Puis parlez-nous tout de vos simple. Histoires là,
oui.
par texto. Là.
Ah non, c'est aussi simple que cela. Après la pause, on va vous parler du maire Marchand qui veut piétoniser le Vieux-Québec. Il a dit bah, « je fais une consultation. Hein, j'ai un petit extrait de faire écouter Pascal CV. » C'est pas une consultation, finalement, la décision est déjà prise. Et on a Arnaud Cordier, programmeur au Festival d'été de Québec, qui va venir nous parler. C'est quoi les petites perles rares qui traînent, là? Qu'est-ce que t'es? Quelle petite scène que je peux aller? Moi, me faufiler sans être trop dans le monde parce que je suis rendu que j'aime ça être plus tranquille, paisible. Puis voir un artiste qui va me faire vraiment triper. Arnaud Cordier débarque en studio avec nous à l'émission Dans Jazz. Jusqu'à 14.